Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda.
Eugène Pewa Pelema depuis la Voix de l'Amérique ici à Washington DC. Je suis rejoint par Sedina Abagay depuis Dakar. Nous venons, Sedina, de vivre ce match émouvant à la fin du quatrième carton entre le FAB du Cameroun et le Petro de Luanda. Ce match s'est joué par une différence de score de 2 points. On a pu voir la fin du match, il y a eu des petites erreurs, je pense, au niveau de l'arbitrage. Mais ce match, d'une certaine manière, le FAP a mal joué son coup entre le deuxième et le troisième carton, où ils n'ont pas réussi à faire leur jeu. Ils faisaient un jeu très précipité pendant ce deuxième et troisième carton. Et ce n'est qu'au quatrième carton, en fait, qui, par orgueil, qu'ils ont sonné la contre-attaque. Et ça leur a permis de revenir à la marque dans un match très disputé avec le Petro de Luanda, qui a subi en fait les deux derniers cartons, gagné de très peu de points par cette équipe de FAP, Sedina.
Oui, en voyant ce match, on se rend compte que cette équipe de FAP n'est pas facile à manier. D'autant plus qu'après le deuxième carton, on va dépasser le coup parce qu'ils ont marqué 11 points. Mais eux, ils sont parvenus à limiter cette équipe de Petro Luanda à 14 points dans le troisième carton et 10 points seulement dans le quatrième carton. Mais comme tu l'as indiqué, il y a eu des impairs, notamment de la précipitation et surtout un joueur qui a été décisif pour le moment et qui aussi a coûté cher à son équipe pour le moment, c'est Amadou Abdoulaye Harouna. Parce qu'il y a des séquences où il devait, par exemple, être beaucoup plus altruiste, libérer la balle plutôt, faire jouer ses coéquipiers, mais il ne l'a pas fait. Mais on a vu un run 8-0 qui leur a permis de réaliser un très bon début de quatrième carton. Ensuite, l'entraîneur José Neto, comme à son habitude, a pris un time out pour casser le rythme et a apporté des ajustements qui ont pensé sur le champ allait permettre au Petro Luanda de se détacher à nouveau. Mais non, après 2 paniers successifs, les FAP ont opposé une belle résistance. Ils n'ont ni abdiqué, ni céder, encore moins se décourager. Et moi, je suis vraiment fan de cette mentalité que les joueurs camerounais ont affichée pour revenir au score, pour rester au contact et surtout pour montrer qu'ils auraient pu remporter ce match s'ils n'avaient pas commis certaines erreurs. Mais franchement, Eugène, quelle défense durant cette deuxième mi-temps, quelle réaction et quelle adversité ces FAP-là ont proposé.
Oui, tout à fait. C'était un match extrêmement défensif. Malheureusement pêché du côté offensif. Le Cameroun, l'équipe du FAP, aurait pu faire beaucoup mieux. C'est vrai, Harouna a été déterminant, mais à un moment donné, comme tu l'as dit, il gardait peut-être trop le ballon et il devait un peu plus diriger le jeu, créer des occasions. Et par exemple, leur Américain Marcus Wallet, qui est venu par la suite, est resté trop longtemps sur le banc. C'est en deuxième, au quatrième quart-temps que le coach Ali Mono l'a ramené et ça a permis à cette équipe de recoller. Ils ont eu quand ils ont volé la dernière balle, ils avaient volé une balle qu'ils ont reperdue immédiatement. Cette balle était capitale, elle aurait permis ou d'égaliser ou de passer devant. Puis bon, mais à la fin, quand on voit à la fin du match, je pense qu'il y a eu une faute qui a été commise sur Harouna. Je suis étonné que coach Adingono n'ait pas demandé un replay pour vérifier ça et qu'on puisse changer le col, et ils auraient eu 2 lancers francs. Et ça je n'ai pas compris cette partie de fin de match.
Mais est-ce qu'ils ont la possibilité, comme cela se fait en NBA, de demander le replay? Parce que je pense que j'ai pas vu en tout cas d'entraîneur demander depuis le début du tournoi.
Si, il y a des ils ont ce règlement
pour voir. Parce que comme tu dis, c'est une faute. Et c'est devant l'arbitre, c'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire. Parce
tout
que
à
c'est
fait.
Devant l'arbitre sur une action décisive qui aurait pu permettre au FAP de recoller et d'aller en prolongation. Donc c'est assez bizarre que l'arbitre n'ait pas sifflé cette faute et c'est aussi assez bizarre que l'entraîneur n'ait pas demandé la vidéo, l'arbitrage vidéo, si il en avait la possibilité, c'est assez bizarre. C'est une fin de match en tout cas qui va laisser beaucoup de regrets à cette équipe des femmes.
Tout à fait, tout à fait. En tout cas, mais ce règlement existe. Il y a effectivement les replays. Ils ont le droit de demander qu'on puisse remontrer l'action. Mais bon, peut-être sous le feu de l'action, émotionnellement, peut-être à un moment donné, il y a eu un oubli de sa part et ça a causé ce que ça a causé. Mais pour revenir sur ce match, on espère qu'on pourra avoir le président de la Ligue du Centre du Cameroun, une ligue dans laquelle cette équipe du FAP évolue, pour qu'ils puissent nous donner certains propos. Mais en analysant le match, on peut constater que, par exemple, côté du Petro de Luanda, nous avons continué à avoir un Carlos Moraes complètement méconnaissable, ratant même des lancers francs. Mais pour compenser son manque de points, on a vu quand même un joueur très présent au rebond, parce que la main, ça ne marchait pas, mais il a été capable de marquer, d'avoir 10 rebonds par exemple. Il a été présent. On a vu par exemple un joueur comme Pedro, qui avait très très bien joué, a disparu complètement lors des autres cartons. Il avait bien commencé avec 13 points, il a fait 10 rebonds, puis on ne l'a plus vu pendant longtemps. Mais c'est l'Américain Antoine Scott qui a fait le match d'une certaine manière en marquant 23 points, Sedina.
Oui, Eugène, et on va encore parler de l'apport du banc, parce qu'on se rend compte que dans les matchs serrés, c'est le banc qui est déterminant. Là, le banc des FAP n'a apporté que 16 points, là où le banc du Petro de Luanda a apporté 33 points. Et c'est dire que dans cette compétition-là, les rosters sont importants, parce que les équipes qui ont les effectifs les plus interchangeables peuvent, en principe, s'en sortir souvent quand le match est assez équilibré ou assez serré. Et sur ce match-là, on a vu que le banc a fait la différence, mais également les Angolais, on se rend compte que pour eux, les lancers francs, c'est comme des paniers faciles. Et quand ils en ratent, on voit la frustration sur leur visage, on voit des gens qui savent qu'ils perdent des points importants. Et ça, il y a certaines équipes qui ne l'ont pas encore intériorisé. On l'a vu sur des matchs depuis le début du tournoi, où des joueurs, on a l'impression qu'ils se précipitent même pour... En tout cas, ils ne s'appliquent pas sur les lancers francs et leur équipe perd 14 points, 10 points ou plus à chaque match sur les lancers francs. Et au final, quand on regarde le score du match, si c'était mieux appliqué sur ces lancers francs-là, ça leur aurait permis soit de gagner, soit de combler un certain gap par rapport à leur adversaire. Donc, c'est des choses sur lesquelles certaines équipes devraient plus s'appliquer, parce que ça leur permet sur des matchs serrés de s'en sortir.
Tout à fait, tu as totalement raison. C'est vrai que quand on voit l'équipe des forces armées police, on se rend compte que le banc n'a pas été aussi performant, puisqu'ils n'ont marqué que 16 points. Ça joue en fait contre eux, alors qu'on a eu une plus grande... Et c'est normal d'ailleurs, une plus grande participation du banc de Petro. Le Petro qui, qu'on appelle ça, ne l'oublions pas, hein, composé de 8 joueurs ou plus de l'équipe nationale angolaise, donc des gens super expérimentés qui sont habitués à ce genre de compétition et qui savent jouer au rythme qu'ils veulent jouer, parce qu'en fait c'est ça qui a joué contre cette équipe du Cameroun, où on voyait plutôt de la précipitation, un manque de patience dans leurs attaques. Ils avaient tout juste besoin de pénétrer cette défense angolaise qui ressemblait à une zone mais qui n'en était pas une, et essayer d'aller à l'anneau. Ils avaient un big man qui tira 3 points au lieu de s'approcher de l'anneau. En tout cas, ils ont mal joué leur coup. Et j'étais un peu étonné que le temps passait et les choses ne changeaient pas. Et comme le match d'hier, un peu de l'AS Douane, on se demandait si coach Adingono aujourd'hui parlait à ses joueurs, ou alors si les joueurs, on leur donnait des consignes et ne les respectaient pas. Donc voilà ce qui se passe, hein. Cédina.
Oui, et je trouve aussi que Même s'il y a des manquements, notamment comme tu l'as souligné, cette équipe des FAP a montré plus de réactions, plus d'envie et surtout d'agressivité en défense que la douanière. Parce que hier, Alvaro Massa s'est littéralement promené dans la raquette de la douane sur la ligne des trois points. Vraiment. Mais là, on se rend compte que ces joueurs-là ont montré une certaine volonté, une réaction adaptée, surtout pour contrer cette équipe-là. Et parce que, comme tu l'as dit, du côté du banc, il y a de la qualité. Du côté du banc de Petro de Luanda, il y a beaucoup de qualité. Il y a beaucoup d'expérience, surtout. Parce qu'on l'a vu, même Leonel Paulo, il est André, le vétéran et capitaine de cette équipe-là. Il a montré beaucoup d'envie. Et donc, je pense que ces FAP-là, en tout cas, d'après ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, mérite de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Et j'espère pour eux que leur dernier match va leur permettre de se positionner parce que vraiment, ils ont une belle résistance face à des équipes qui, en principe, sont beaucoup plus... sont en tout cas un niveau au-dessus, mais eux, ils jouent sans complexe, ils jouent avec leurs atouts. Mais comme tu l'as souligné, il y a des ajustements techniques et tactiques qu'il va falloir pour rentabiliser toute cette envie et tout ce talent que cette équipe des FAP manque.
Tout à fait. En tout cas, coach Adingono a intérêt à mettre en place une stratégie gagnante pour leur dernier match contre l'AS Police qu'ils doivent absolument gagner. Et s'ils peuvent le gagner avec un certain nombre de points, ça leur permettrait, en tout cas, ils seront parmi les meilleurs troisièmes. Parce que c'est une équipe qui a un potentiel et peut-être là ils pourront tirer leur épingle du jeu. En tout cas, nous verrons ce qu'il en est. Ce qui est sûr, le prochain match va opposer l'autre équipe du groupe, c'est-à-dire l'AS Police contre l'AS Salé. Ce sera aussi un match très 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 difficile. Qui pourra déterminer si l'AS Salé pourra gagner son match et jouer la petite finale du groupe contre le Petro de Luanda qui a pu déjà se qualifier pour ce quart de finale de la Ligue africaine de basketball. En tout cas, nous avons devant nous un très grand match qui se jouera tout à l'heure. Je suppose que l'AS Police fera de son mieux pour essayer de recoller dans cette compétition. En fait, je me trompe, c'est le prochain match que nous allons suivre, c'est l'Union Sportive Monastérienne, qui est une équipe tunisienne qui a été championne d'Afrique des clubs champions et qui rencontre le River Hooper Basketball Club. Un match qui est plus qu'important pour les Hoopers qui ont fait une très mauvaise entrée contre les Patriots. S'ils veulent avoir une chance au moins d'être parmi les gens qui joueront, les équipes qui joueront ce quart de finale, au moins être parmi les meilleurs troisièmes, parce que en perdant le match de plus de 20 et quelques points, il serait nécessaire qu'ils puissent bien réagir, essayer de gagner et ou du moins éviter au maximum d'encaisser trop de paniers dans le cas où il venait à perdre ce match, Céline.
Oui, en tout cas, face à l'Union Sportive Monastérienne, il va falloir être... Parce que quand je regarde le score qu'ils ont mis lors du précédent match, bon, je me dis qu'ils sont quand même à un certain niveau. Maintenant, c'est au niveau football, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la première partie, avant le premier match, de montrer beaucoup plus qu'ils ont montré face aux Patriots. Parce que durant ce match-là, on a vu des limites, surtout sur le plan mental, parce que des joueurs qui se sont relâchés très tôt, qui ont très tôt abdiqué, c'est une chose à ne pas faire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, les FAP l'ont montré. La détermination peut des fois combler le talent, parce que c'est un sport collectif et les ajustements tactiques et surtout l'engagement des joueurs sur le terrain pour permettre de surmonter certaines situations, de résorber certains gaps et de se montrer à son avantage. Donc, les Hoopers ont tout intérêt à montrer un meilleur visage et surtout une meilleure force mentale pour faire face à cette équipe monastérienne qui a été très, très impressionnante lors du premier match.
Tout à fait. En tout cas, cette équipe monastérienne, comme tu le dis, c'est une mini-équipe nationale de Tunisie que tu vois. et qui est, comme l'Angola, la Tunisie a construit un programme de basketball depuis les 20 dernières années. Et c'est ce programme qui continue. N'oublions pas que la Tunisie est probablement l'un des pays qui a les plus grandes infrastructures sportives en Afrique, parce qu'ils ont des terrains et des centres de préparation dans l'ensemble du pays. Il y a des terrains de basket couverts un peu partout. Ils ont fait du basketball un sport super, super développé dans leur pays. Et ce qui explique les bons résultats qu'ils ont eus ces dernières années, où on a vu des clubs tunisiens remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais on a aussi vu la Tunisie s'approprier 4 podiums, dont 2 championnats d'Afrique en 2011, si je ne me trompe pas, et en 2015 ou 2017. Ils ont pu faire cela, sinon ils ont eu aussi 2 médailles de bronze ces 10 dernières années, ce qui fait que après l'Angola, c'est probablement le programme de basketball qui a le mieux réussi dans cette compétition.
Oui, tout à fait. C'est une équipe qui a su, c'est un pays qui a su développer une politique sportive intéressante, comme tu viens de le souligner, et qui est également parvenu à se positionner parmi les grands d'Afrique et jusqu'à aller en Coupe du Monde, jusqu'à avoir des titres au niveau africain. Donc, quoi qu'il advienne, en tout cas, on a que des mini-équipes nationales, parce que pratiquement dans toutes les équipes, on a au minimum 3 à 5 joueurs qui sont membres de l'équipe nationale de notre pays. Donc, je pense que ce sera une compétition disputée de bout en bout. Et la Tunisie, comme tu l'indiquais tout à l'heure, effectivement, est championne d'Afrique en 2011, en 2017, médaille d'argent. Il y a très longtemps, en 65, mais par rapport à le système qu'ils ont adopté récemment, ça leur a amené des satisfactions, puisque au-delà des 2 titres acquis en 2011 et 2017, ils ont également été médaille de bronze en 2009 et en 2015. Autant dire que c'est une nation qui s'est positionnée en tout cas, une grande nation de basketball. C'est un pays qui s'est positionné comme une grande nation de basketball en Afrique, avec notamment la participation aux JO de 2012. À la Coupe du Monde de 2019, ils n'ont pas été fameux, mais au moins, ils ont montré un basketball qui leur permet de participer aux joutes continentales, d'y être sacré, et de participer aux joutes internationales et d'y faire bonne figure.
Tout à fait. D'ailleurs, cette même Tunisie est pour le moment qualifiée pour le tournoi pré-olympique qui vont jouer d'ici quelques temps en Europe. Qui déterminera un qualifié supplémentaire ou 2 qualifiés supplémentaires pour aller à Tokyo. Et donc, d'ailleurs, pour repartir même dans le passé, cette équipe de Tunisie avait été médaillée de bronze au championnat d'Afrique qui s'était déroulé en 1974 à Bangui, en République centrafricaine. Ils ont toujours eu un basket très technique, bien joué, et donc ce n'est pas étonnant de les voir à ce niveau le plus élevé. En tout cas, la Ligue africaine de basketball va permettre, en tout cas, à cette Afrique, comme on l'a dit, peut-être dans le temps, là, à court terme, obligatoirement, on a été avec les joueurs que nous avons sur le moment. Probablement que les équipes, du moins la Ligue, va se développer d'une telle manière à promouvoir les jeunes Africains, beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas plus âgés de 25 ans, 23 ans, 24 ans et plus bas, afin de pouvoir pour avoir une meilleure qualité de basketball qui permettra à cette ligue de progresser dans le temps et ouvrir des opportunités aux meilleurs joueurs africains pour avoir accès, par exemple, à des ligues comme la NBA ou à l'Euroleague en Europe ou des championnats, du moins des championnats en Europe tout entière. Ok, Eugène Péwa Pelema, d'ici le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC, et Cheikh Thiérot. Cheikh, bonjour, comment vas-tu?
Oui, ça va. Ça va
très bien par la grâce de Dieu. On a assisté aujourd'hui à un super match avec un score étriqué entre le Pedro de Luanda contre les Fabs du Cameroun, un match qui s'est terminé un peu de façon bizarre, parce que le Cameroun aurait pu bénéficier de cette faute à la dernière seconde, une faute commise. L'entraîneur du Cameroun n'a pas utilisé le replay de la vidéo, et donc ils ont perdu le match de 2 points. Donc je te laisse un peu, je voudrais avoir tes impressions par rapport à ce match et ce que tu en penses, quoi.
Yeah, moi quand même je pense que c'était un très bon match, c'est un très bon match, Eden. L'endroit là où moi quand même je vais parler un peu, c'est là où vraiment quand on voit le tournoi, toutes les équipes qui ont perdu leur premier match, ils sont tous venus avec des efforts splendides. Et comme on dit, ils sont venus avec de force. Et quand s'il était au 20%, ils sont venus avec 80% de performance. On a vu ça avec toutes les équipes qui ont perdu dans le tournoi. Et puis, les cas, c'est les Patriots. Tout le monde pensait qu'ils allaient perdre contre Madagascar. Hier, c'était le même cas aussi avec l'équipe perdant qui a joué hier. Aujourd'hui, nous avons vu une prestation de l'équipe de Cameroun qui d'ailleurs devait gagner le match parce que moi, si tu gardes une équipe qui marque plus de 90 points, et c'est une équipe qui peut scorer 90 points par match parce que c'est une équipe qui fait les 3 points. Et quand tu regardes l'équipe angolaise, là, même l'histoire de l'Angola dans les baskets africains, l'Angola n'est pas une équipe qui est grand avec des athlétismes. Ils ont l'athlétisme, ils ont le talent, les techniques, skill set, mais l'Angola, toutes les équipes africaines avec les 3 points parce qu'on a vu que du meneur au pivot, tout le monde met les 3 points. Quand tu joues avec une équipe qui met 3 points comme ça, c'est trop difficile à marquer parce que quand on joue aux 3 points dans les matchs, c'est un rebond qui va être long. Bon, le rebond qui est long, c'est aux joueurs de voir que quand l'équipe shoot les 3 points, le rebond va être un long rebond. Il faut seulement bloquer le meneur même juste au point de 3 points. Parce que quand la balle rebond du cerceau, ça va loin, en dehors du maître du pivot, des deux pivots. C'est le meneur qui récupère les rebonds maintenant et donne une seconde chance à l'équipe angolaise qui encore essaie de shooter au tri encore. Bon, moi quand même, j'ai vu que l'équipe camerounaise a joué très bien avec contre eux. Ce n'était pas un match qui jouait le catch-up. Parce que, en général, quand tu joues un match catch-up avec une équipe, tu es barré. Parce que toi, tu es en train de catch-up à l'air, à le score. Le score, bon, aussi en train de catch-up au temps du clock. Donc, ça veut dire que si tu es en train de jouer catch-up, bon, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Mais ce n'était pas le cas avec l'équipe de Cameroun qui a vraiment montré la défense. Ils ont limité l'Angola à moins de 70 points. Imagine qu'une équipe comme le Golden State, qui limite 70 points par match, ça veut dire que tu as très bien joué défensivement. Mais dans le basket, tout, beaucoup de choses comptent. Les petits trucs dans le basket, les simples basiques, là, ça compte beaucoup dans le basket. Ça, c'est les déflexions, la défense. Et quand tu retournes la balle ou bien quand tu perds la balle, les rebonds, les shot blocks, les blocks, tous les petits détails dans les matchs comme ça serrés, une compétition comme ça, ça compte beaucoup. C'est ce qu'on a vu à la fin du quatrième quart-temps, qu'il y avait un jump ball, parce qu'il y avait un effort qu'ils ont fait, et puis ça a été le ball a été donné, la position a été donnée à Angola pour donner la victoire. Mais c'est une manière de gagner une match quand même à la dernière minute parce que c'est l'effort qui compte en ce moment. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de compétition. Vraiment, les deux équipes ont moulé le maillot et puis nous, en avance, on doit voir que l'Angola, c'est une équipe qui shoot beaucoup de 3 points. Si tu les marques avec les 3 points, ils vont avoir beaucoup de sérieux problèmes avec toutes les équipes. Et on a vu ça avec l'AS Police du Mali et quand ils faisaient beaucoup de tri et les rebonds, ça tombe encore dans les mains de l'offense. Et puis, okay. troisième chance, quatrième chance au cerceau. Ça, et quand tu perds la balle en offense, et ça doit être deux points à ta côté, sur toi.
Tout à fait.
La personne qui va prendre le rebond va engager ça, il doit te marquer deux points. C'est ça la norme du balle. Mais si toi, tu as une seconde chance, deuxième chance, troisième chance, quatrième chance, c'est trop bon pour toi. Donc, l'équipe angolaise, là, leur point fort, c'est de jouer en dehors du 3 points. Et puis, même si quelqu'un est ouvert au-dessus du cerceau, souvent on a tendance de passer aux gens, à la personne qui est ouverte au niveau du 3 points pour chuter les 3 points. Et puis, mais ça, parce qu'on a vu que du premier au 5, tout le monde joue plus, met les 3 points. Là, aujourd'hui, le 41, la fois dernière avec l'équipe du Mali, le premier match, il a marqué 4 3 points avant
ouais,
que les sachent que c'est le pivot qui peut marquer des points.
Donc,
je pense que moving forward, en avance, l'équipe angolaise doit vraiment aussi considérer de jouer à l'intérieur parce que si tu joues une équipe contre les Patriotes et les de la Tunisie. Et si tu ne marques pas beaucoup de 3 points, ils vont vraiment se dominer avec leur vivacité. Une équipe comme le Sénégal, qui est très rapide en défense,
okay.
Marquer en haut.
Merci beaucoup, Cheikh. En tout cas, on va se reparler pour le prochain match qui aura lieu entre les River Hoopers et l'équipe de Monastir. Donc, disons que pour aujourd'hui, nous allons demander à nos auditeurs de nous retrouver tout à l'heure pour le prochain match qui va se jouer à 14h de Washington. Donc, ça fait, je crois, là, j'ai pas l'heure devant moi, l'heure locale. Mais nous nous retrouvons très bientôt sur cette chaîne dans une heure où le match se jouera, le prochain match se jouera entre l'équipe de Monastir et l'équipe de AS, du moins de River Hoops, de Hoopers de Nigeria. Donc, Sedina, nous nous retrouvons tout à l'heure pour le match, le deuxième match de cette journée. Nous invitons tous nos auditeurs à nous retrouver plus tard dans cette compétition qui a commencé depuis un moment et qui, d'une certaine manière, enjoie le public africain. Et donc, je les invite encore une fois à suivre les matchs à Bangui sur la bande 101.7, à Brazzaville et Kinshasa sur la bande 104.3, à Matadi, Mbuji, Mayi et Kananga sur la bande 93.5, à Pointe-Noire sur la bande 98.3, à N'Djamena sur la bande 93.1, à Dakar sur la bande 102, à Lubumbashi sur la bande 102.8, à Bukavu sur la bande 97.4, à Goma sur la bande 96.2, à Kisangani sur la bande 97.7, à Abidjan sur la bande 99, à Ouagadougou sur la bande 102.4, à Niamey sur la bande 102.5 et à Lomé sur la bande 102.3. C'était Eugène Pewa Pelema depuis le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC et Sedina Abagé depuis Dakar au Sénégal. À tout à l'heure.
C'est l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda.